Ici Homer Simpson qui dit bonjour à toutes les filles qui sont à l'écoute de notre station.
J'ai jamais changé le monde avant, alors je sais pas exactement combien de temps ça prend, mais si on est assez...
Wouhou, no problemo! Camarades, j'ai discuté nuit et jour avec Burns et j'en ai ras-le-bol.
La grève, la grève, la grève!
Il sait qu'il y a pour la grève.
Et en quoi l'éducation peut me rendre plus intelligent? Chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau, j'oublie quelque chose que je savais.
Fusion du cœur du réacteur dans 10 secondes. 9, 8, fusion évitée.
Nous appartenons à la commission de réglementation du nucléaire. Nous venons vérifier les compétences de vos employés.
Il va y avoir une erreur. Nous fabriquons des biscuits ici.
Vous avez un Homer Simpson dans vos effectifs.
Désolé, il est en voyage.
Oui, il est à Genève. Il préside une conférence sur la fission nucléaire.
Homer, c'est la réplique exacte de votre poste de travail. Nous allons simuler une surchauffe dans le secteur 8 du cœur du réacteur.
Ça va pas la tête de quoi vous parlez. Mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? S'il vous plaît, dites-moi ce qu'il faut que je fasse.
Attendez-vous, ce n'est qu'une simulation, il ne se produira rien.
J'appuie à l'aveuglette jusqu'à ce qu'il me laisse partir. Moi, détruire espèce humaine.
Cette centrale viole toutes les lois sur le travail.
Vive l'anarchie.
Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'écoute de Radio Canu, nous sommes le jeudi 30 juillet et ce soir c'est la dernière émission de la saison 2014-2015. On espère que vous êtes avec nous jusqu'au bout parce que nous avons prévu beaucoup beaucoup de choses. Alors par exemple, on ira au pays de Vladimir et au pays de Barak, mais nous irons aussi en Angola, au Népal, nous parlerons d'espions. Nous irons évidemment aussi en Turquie pour commencer ce Canu Info. Nous parlerons beaucoup des fachos ce soir, pas mal d'informations. Nous reviendrons sur les profiteurs du moment. Nous reviendrons sur Boulanger et la grosse connasse. Oui, tout à fait, vous avez dû entendre parler de cette affaire. Nous parlerons de vélo à Copenhague. Nous parlerons de résistance chez les scientifiques. Nous parlerons de catastrophe écologique. Nous parlerons nucléaire. Et puis nous parlerons des militants de Greenpeace contre Shell. C'est pour ce Canu Info.
Voilà, c'est la dernière de la saison, mais on reviendra en... la dernière semaine d'août, normalement, si tout va bien, pour une nouvelle saison de ce Canu Info. Nous avons fait pas mal d'émissions et pour terminer une émission normale, donc avec l'actualité normale, puisque comme d'habitude, nous faisons le tour avec la sélection habituelle, enfin la sélection particulière, partisane et assumée du Canu Info du jeudi. Je commence par la Turquie avec la guerre qu'a lancée la Turquie contre, je cite, le terrorisme et qui vise bien évidemment avant tout les Turcs, puisque c'est maintenant officiel, la guerre contre les Kurdes, j'ai dit une connerie, tout à l'heure turc, c'est contre les Kurdes, a bien commencé et les représailles aussi, par exemple ce matin, policiers et un civil sont morts après avoir été touchés par des tirs venus d'une voiture, donc ils se trouvaient devant un salon de thé de la ville de Sinar, une ville à majorité kurde, donc c'est attribué par les médias proches du parti AKP au pouvoir à des militants du PKK, du Parti des Travailleurs Kurdes. Mais juste avant, dans l'autre sens, les F-16, parce que c'est pas la même échelle non plus, hein, les F-16 de l'armée turque avaient mené une nouvelle série de raids contre les cimes du PKK. Ça se passait essentiellement dans les montagnes du nord de l'Irak, mais aussi quelques cibles ont été visées en Turquie. Alors là, on n'a pas le nombre de morts, parce que c'est plus compliqué de les avoir, c'est certainement plus, que c'est des bombes qui sont lancées par les F-16 de l'armée turque. Alors tout ça, c'est comme on l'avait dit la semaine dernière, suite à cet attentat suicide du 20 juillet à Suruç, ou Suruç, vous prononcez à la turque si vous y arrivez. Attentat attribué à l'État islamique, qui avait fait 32 morts parmi les militants, notamment de la cause kurde. Et tout ça fait quoi ? Ben, ça a fourni une belle excuse aux autorités turques pour tirer dans le tas. Et c'est bizarre, parce que ceux qui ont été victimes de l'attentat sont ceux qui ont aujourd'hui victimes des représailles de l'armée turque. Alors, si on suit ce que dit le président Recep Tayyip Erdogan, il explique qu'avant tout, il vise les terroristes. Donc, et d'ailleurs, il a tapé un peu sur les militants de l'État islamique. Sauf que dans les faits, on sait qu'il vise avant tout le PKK, et il fait exprès d'ailleurs de mettre sur le même plan l'État islamique et le PKK, donc le Parti des Travailleurs Kurdes. Et d'ailleurs, il le fait avec ses alliés historiques, notamment les États-Unis d'Amérique. Faut dire que quand il a commencé la semaine dernière à bombarder quelques cibles de l'État islamique, notamment en Syrie, les Américains tout de suite ont explosé de joie, enfin en tout cas de manière diplomatique, en étant contents des frappes de l'armée turque contre les djihadistes. Mais et d'ailleurs en échange, les États-Unis d'Amérique, en échange de ce soutien, les États-Unis d'Amérique ont eu le droit d'utiliser la base stratégique d'Incirlik pour pouvoir eux aussi aller bombarder en Syrie. Sauf qu'en fait, les Américains étaient au courant et tout le monde s'en est rendu compte. Les premiers visés sont pas l'État islamique, ce sont bien les militants kurdes, et c'est les Kurdes. Et c'est intéressant de voir ça, puisque ils ont à nouveau fait des frappes dans la région où il y a les Kurdes, notamment sur les Kurdes qui se battent contre l'État islamique. Alors que la Turquie a toujours été hyper complaisante avec les djihadistes, notamment en faisant exprès d'avoir une frontière ultra poreuse, hein, permettant notamment aux militants du monde entier de passer par la Turquie pour aller rejoindre la Syrie dans les rangs de l'État islamique. La Turquie d'ailleurs a été assez peu condamnée pour cette complaisance, et aujourd'hui elle se sert de cette excuse. Alors je raconte pas des choses en l'air, hein. Dans les faits, officiellement, d'après les autorités turques, telles que ça a été révélé, 1300 personnes ont été arrêtées depuis la semaine dernière, 847 parce qu'ils étaient proches des rebelles kurdes, et seulement 137 parce qu'ils étaient en lien avec l'État islamique. Donc 7 fois plus de Kurdes que de militants djihadistes. Alors si on regarde les frappes, c'est de la même ordre de grandeur, en tout cas c'est l'équivalent, 15 frappes officielles en une semaine contre le PKK, contre les Kurdes de Syrie, pas que du PKK d'ailleurs, contre les militants kurdes en général, et 3 seulement contre l'État islamique. Donc il y a une vraie volonté de récupération de l'attentat fait par l'État islamique. Du coup, tous les complotistes, parce que la sphère complotiste avait tout de suite dit c'est pas un attentat de l'État islamique, mais c'est un attentat de l'État turc, etc. Ces thèses sont toujours absurdes, mais par contre, ça met en avant que qui a profité de ce crime-là, eh ben c'est l'État turc, même si c'est pas l'État turc qui est à l'origine de l'attentat, contrairement à ce que disait la sphère complotiste. Donc voilà, alors, si on écoute les dirigeants du PKK ou même, alors, le Parti démocratique des peuples, alors, le Parti démocratique des peuples, c'est le HDP, c'est ceux qui sont pas révolutionnaires, qui ont gagné pas mal de voix dans la dernière élection et qui ont mis à mal, d'ailleurs, l'AKP qui avait la majorité à l'Assemblée et qui l'a perdu suite à l'arrivée de 13%, je crois, des suffrages pour le Parti démocratique des peuples. Et le principal dirigeant de ce parti, qui s'appelle Selahattin Demirtas, lui, il est la cible de l'AKP et de Recep Tayyip Erdogan. Alors pour l'instant, c'est pas une cible physique, ils l'ont pas encore essayé de l'assassiner, mais c'est une cible politique. Donc, ils attaquent les Kurdes, d'abord le PKK, et on imagine qu'après, ils risquent soit d'attaquer physiquement le HDP, soit, plus vraisemblablement, de continuer la campagne de propagande anti-kurde qui est à l'œuvre dans les médias aujourd'hui en Turquie, pour demander une nouvelle élection, dissoudre l'Assemblée, avec l'espoir que le Parti démocratique des peuples, qui est à majorité kurde, ait moins de voix suite à l'amalgame qui est fait entre le PKK et soi-disant il serait aussi terroriste que l'État islamique. Donc c'est un enjeu important pour le parti islamo-conservateur, comme on dit, qui est de moins en moins démocratique, hein, faut quand même bien voir ça. Se servir d'une guerre et faire une guerre juste parce qu'on a perdu les élections dans le but de gagner les prochaines, c'est pas la première fois qu'un pays fait ça, mais là, ça va quand même très très loin, surtout pour les militants kurdes, hein, à qui on pensera quand même, ceux surtout qui luttent contre l'État islamique, qui ont perdu des dizaines de milliers, enfin des milliers plutôt de combattants, et qui aujourd'hui se prennent les bombes turques.
Alors on va ouvrir cette partie de l'émission consacrée à ce qui se passe au pays de Vladimir avec la nouvelle sortie de monsieur Poutine, Vladimir Poutine. Donc c'était lundi dans un entretien à la télévision RTS, télévision suisse, monsieur Poutine a une nouvelle fois apporté tout son soutien au président démissionnaire de la FIFA, monsieur Blatter. Alors n'oublions pas que le pays organisera la prochaine Coupe du Monde en 2018, hein, et qu'en plus de ça, au pays de Vladimir, la fraternité est une valeur sûre.
En tout cas, la fraternité avec ceux qui sont pas très réglos, ceux qui trichent, ceux qui volent, voilà.
Tu as tout compris.
C'est ça, hein, le principe.
Je vais donc le citer dans la traduction. Je pense que les gens comme lui, monsieur Blatter, ou les grands dirigeants de fédérations sportives internationales ou de comités olympiques, méritent une reconnaissance particulière. Si des gens méritent le prix Nobel, ce sont ces gens-là. Ils renforcent la collaboration entre pays et apportent une contribution humanitaire aux relations entre peuple et État.
Moi, je suis d'accord avec lui. J'aurais envie de donner le prix Nobel de la corruption à Sepp Blatter. Mais je suis pas sûr que c'est à ce prix Nobel-là qu'il pensait.
Non, alors on en rigole un peu, mais c'est quand même pas drôle de vivre en Russie. Franchement, ça fait flipper la manière dont Vladimir Poutine expose ses idées, ses concepts. C'est quand même très particulier. Alors pour juste un mot sur la FIFA, vous avez donc entendu que monsieur Platini se présentait, donc poste de président de la FIFA.
Quitte à remplacer un corrompu, autant le remplacer par un autre soupçonné de corruption.
Alors, les noms commencent à apparaître. Et il y en a un qui est très intéressant, c'est celui de Chang Moon-jun, sud-coréen. Il est l'héritier du groupe, de la multinationale du gigantesque Hyundai. Il est ancien vice-président FIFA. Ça a duré 17 ans. Donc ça aussi, c'est à mon avis une candidature qu'il va falloir qu'on suive un peu. C'est très très intéressant ce qui se passe à la FIFA. Et puis, nous allons donc poursuivre avec ce qui se passe en Russie, parce que c'est pas drôle, comme on le disait.
Oui, alors je vais revenir juste sur l'info que j'avais donnée la semaine dernière où on attendait que Moscou donne son veto à l'enquête demandée au niveau de l'ONU. C'est fait, donc je reviens sur les faits. C'est une enquête qui vise à déterminer les responsabilités dans le crash du vol de la Malaysian Airlines, là, le MH17, qui a été abattu par un missile au-dessus de l'Ukraine en 2014. Et donc je cite le responsable de la Russie à l'ONU, il a dit que ce conflit, ses responsables, tout ça devait pas être un otage de la politisation et du brouhaha politique. Donc voilà, alors cette commission d'enquête donc qui aurait pu exister mais auquel la Russie a mis donc son veto hier au Conseil de sécurité de l'ONU, était demandée notamment par les Néerlandais. En fait, il y a 5 pays qui l'ont demandé. Donc la Malaisie, les Pays-Bas, l'Australie, l'Ukraine et la Belgique. Et surtout les Pays-Bas, parce que c'est eux qui sont le plus morts dans cette catastrophe. Mais il y avait d'autres pays qui soutenaient, les États-Unis, la France, l'Angleterre soutenaient, plein de pays soutenaient cette résolution, qui ne condamnait pas la Russie. Hein. C'est une résolution qui demandait est-ce qu'il y a un tribunal international pour qu'une fois que l'enquête aboutisse, puisqu'elle devrait aboutir en octobre, on devrait avoir les conclusions, il y ait des condamnations derrière. Et la Russie a dit non. Donc, bien sûr, on a tous en tête que pas mal de soupçons pèsent sur les militants nationalistes pro-russes qui se trouvent en Ukraine et qui, de là, serait parti le missile. Mais pour l'instant, on attend les résultats de l'enquête. En tout cas, le fait d'avoir mis ce droit de veto, ça semble une preuve de culpabilité du coup de la Russie. En tout cas, si c'est pas une preuve de culpabilité, ça fait un énorme soupçon, puisque s'ils étaient honnêtes et qu'ils avaient envie d'un petit peu de justice, il y a pas de raison de pas laisser une enquête et un tribunal se mettre en place, hein, bon, bien évidemment. Alors, je vais rester en Russie pour parler de militants qui sont en tôle, en prison, pour utiliser des mots plus communs, et ou qui risquent de l'être. Alors, ça concerne plusieurs personnes. Je vais commencer par Andrei Nekrasov, donc journaliste et activiste, qui est poursuivi depuis un petit moment par la Russie. Alors, il arrivait à quitter la Russie en mars 2015, et il a été arrêté malheureusement le 15 juillet à l'aéroport de l'Arkana à Chypre. Il est en prison à Nicosie, donc à Chypre, et il va être présenté à un juge le 13 août, parce que la Russie a demandé son extradition. Donc c'est mal parti pour lui. Alors, pour revenir sur ce dangereux personnage qui est Andrei Nekrasov, donc les poursuites lancées contre lui, c'est les poursuites traditionnelles hein, de l'État quasi-dictatorial russe contre les journalistes indépendants et les journalistes critiques. C'est exactement de ça dont il est question. Alors, pour revenir sur ce qu'il a fait plein de choses. Il vient d'Ijevsk en Nourmourtie, donc c'est dans l'Oural. Donc il a fait plein d'enquêtes sur les affaires de corruption qui impliquent des fonctionnaires locaux, donc des fonctionnaires russes. En 2008, il se lance dans la presse d'investigation, notamment dans l'hebdomadaire Den, puis dans d'autres hebdomadaires qui vont plus ou moins fermer suite aux pressions, notamment les pressions de l'État, du gouvernement et des services secrets russes sur les annonceurs pour leur demander d'arrêter de mettre de la pub. Du coup, les journaux coulent à chaque fois. Donc, grosso modo, c'est ce qui va lui arriver entre 2008 et 2012. Ensuite, il continue ses activités journalistiques sur des blogs. Et va s'impliquer dans des mouvements sociaux aussi, ce qui va continuer d'énerver les services secrets, notamment le FSB, services secrets russes qui l'ont arrêté plusieurs fois. Et puis, peut-être la cerise sur le gâteau, il est allé aider, faire une enquête sur des ouvriers de l'usine d'Ijmash, qui avaient des soucis avec leur patron et donc avec l'État russe. Et ça a fait déborder un petit peu l'eau du vase pour le système totalitaire russe, puisque suite à ça, ils ont essayé de l'arrêter, donc il est parti. Il sait qu'aujourd'hui, il peut plus rentrer, hein, puisqu'il vient d'être condamné en début d'année à 450 € d'amende pour diffamation, et que la Cour suprême de sa région, la d'Oudmourtie, a confirmé la mise en détention provisoire d'Andrei Nekrasov, s'y revenait. Mettre les pieds en Russie. Du coup, il risque beaucoup si jamais Chypre met à exécution ou accepte la demande d'extradition de la Russie. Donc voilà, alors on peut parler aussi d'Alexander Kolchenko et de Oleg Sentsov. Alors eux, c'est pas des journalistes, c'est plutôt des militants libertaires, hein, des anarchistes, militants et syndicaliste aussi, étudiant pour Alexander Kolchenko. Alors eux, ils sont en tôle depuis un an. Ils sont accusés d'actes de terrorisme. Donc, ils n'ont pas balancé des bombes, ils n'ont pas fait d'attentats. Non, ils ont organisé des manifestations pour la liberté en Crimée. Vous savez, la Crimée qui est occupée depuis un an par la Russie de Poutine. Donc ces militants qui sont anarchistes, antifascistes, ils ont été arrêtés pour avoir organisé ces manifestations. Alors Alexander Kolchenko, c'est un militant et syndicaliste étudiant. Oleg Sentsov, c'est un cinéaste ukrainien mais engagé aussi, qui a participé aussi à ces actions et qui est poursuivi donc pour les mêmes raisons. Il risque de 15 à 20 ans de camp de travail. Ah, les camps de travail russes, là, c'est les du goulag, juste pour leurs idées révolutionnaires et anarchistes. Donc voilà ce qui se passe en Russie en fait. Alors on dit ça, mais on en a déjà parlé de la condition des militants, voire des homosexuels tout court, et des militants qui défendent la cause homosexuelle. Enfin voilà, il y a plein de choses. La Russie a vraiment basculé du côté totalitaire. Et une info qui est en lien avec la Russie, on va parler de la Crimée, donc j'en ai parlé à l'instant, puisqu'on a appris aujourd'hui que l'Ukraine, qui cherche vraisemblablement à faire un concours avec la Russie pour essayer d'être le moins démocratique possible et le plus autoritaire possible, vient d'interdire aujourd'hui l'entrée sur son territoire aux 10 députés français qui ont visité la Crimée la semaine dernière. Donc, ces parlementaires, c'est essentiellement des gens, il y en a 9 sur les 10 qui sont issus du parti de droite Les Républicains, et il y a un membre du parti centriste, donc ils ont beaucoup énervé l'État ukrainiens et les services secrets ukrainiens, parce que tout le monde s'était opposé à leur venue, et ils sont venus quand même. Vous allez me dire, pourquoi pas, ils ont le droit de venir voir ce qui se passe en Crimée. Donc la réaction de l'Ukraine est bien évidemment ultra autoritaire et ultra disproportionnée, même si elle est en réponse en fait à la couverture médiatique russe qui a été énorme sur la visite de ces parlementaires qui sont instrumentalisés par Moscou, c'est évident, évident, parce que ces parlementaires, ils sont pas bêtes, ils ont fait des études, ils sont intelligents, ils ont un peu de culture. S'ils disent toutes ces bêtises et s'ils font toutes ces bêtises, c'est que derrière il y a un intérêt et qu'il y a un intérêt à obéir à l'ogre ou au géant russe. Alors ça va loin, puisque si on suit ce que dit Thierry Mariani, donc militant de droite réactionnaire du Parti Les Républicains, je cite, il a dit: l'histoire, c'est que la Crimée a toujours été russe. L'histoire, c'est que la population s'est toujours sentie russe. Alors, bizarrement, ce révisionniste, parce que c'est comme ça dont il faut le voir, puisque la Crimée a pas été toujours russe, bien évidemment. Elle était à un moment grecque, à un moment romaine, à un moment il y avait des Tatars qui étaient majoritaires, ensuite il y a eu l'Empire Ottoman, des alliances avec l'Empire Ottoman, ensuite elle a été russe à partir du XVIIIe siècle pendant un moment, ensuite elle a été allemande, notamment occupée par une partie par les nazis, ensuite elle a été à nouveau russe, ensuite elle a été autonome un petit moment, avant d'être accordée à l'Ukraine et récemment réoccupée par la Russie. Donc ce Thierry Mariani, qui est un menteur, qui est un manipulateur, qui est un révisionniste, en disant que la Crimée a toujours été russe, se fait le porte-parole du discours nationaliste russe, faisant entendre que cette région a toujours été russe, sauf que c'est beaucoup plus compliqué que ça, l'histoire de ce bout de territoire. Et finalement, on aurait juste envie qu'il soit autonome, et après, il ferait ce qu'il veut, mais c'est pas ce que veut la Russie aujourd'hui. Donc voilà, la réaction d'ailleurs de l'Ukraine est quand même à condamner aussi. On notera que dans les partis populistes, parce qu'ils sont soutenus, la Crimée et la Russie, essentiellement par les partis populistes, alors là, c'est deux élus de la République française qui sont allés, qui sont connus, mais il y avait eu déjà des militants du Front National, notamment, qui étaient allés tout de suite après le pseudo-référendum en Crimée. C'est essentiellement l'extrême droite qui soutient jusqu'à présent la Russie et ce qui se passe en Crimée. Et puis la droite s'y met, voire ça va un peu plus loin maintenant. On a le mouvement 5 étoiles, ce mouvement populiste italien qu'on pensait au début peut-être de gauche, mais finalement pas vraiment, qui est plus populiste qu'autre chose, qui est pas très intelligent politiquement. Lui aussi, donc le mouvement a annoncé officiellement qu'ils allaient venir en Crimée pour soutenir la Russie. Voilà, c'est quand même triste de voir ça aujourd'hui dans le monde moderne.
Alors, après le pays de Vladimir, nous allons partir au pays de Barack, aux États-Unis d'Amérique. Je voudrais vous parler de Curtis et de Catherine Jones, deux personnes qui ont été condamnées pour meurtre aux États-Unis d'Amérique. Curtis Jones, mardi, a été relâché de la prison de Floride, où il était emprisonné depuis 16 ans. Alors pourquoi je vous parle de Curtis Jones? C'est parce qu'il était devenu le plus jeune condamné pour meurtre aux États-Unis d'Amérique. Il avait 12 ans.
12 ans?
Oui, Catherine, sa sœur, avait 13 ans. Ils ont été jugés pour meurtre comme des adultes à l'époque.
Et 16 ans après, il sort?
Et il sort, ça y est.
Ça veut dire qu'il est innocent?
Non, c'est qu'ils ont fait leur peine.
Oui.
Sa sœur devrait être lâchée prochainement. Alors, ils ont été jugés, condamnés pour le meurtre de la petite amie de leur père. À la base, ils avaient prévu de tuer cette femme, leur père, et un autre membre de la famille. Pourquoi? Parce qu'ils étaient violés par ce membre de la famille. Et à l'époque, en 99, au moment du procès, tout ça a été mis de côté. Pourtant, les services sociaux avaient bien amené des soupçons d'abus sexuels sur les deux enfants. Et puis récemment, il est vrai qu'il était réapparu des documents prouvant que Curtis et sa sœur Catherine ont été violés par un membre de la famille. Alors pourquoi ils ont tué qu'une personne? C'est parce que faut se souvenir, ils ont 12 et 13 ans.
C'est
à
pas
l'époque.
Facile de tuer quelqu'un à cet âge-là.
Ils ont eu peur. C'est-à-dire que, en fait, c'est face à cette violence qu'ils ont subie, qu'ils sont arrivés à ce meurtre. Et puis une fois fait, ils se sont enfuis, ils se sont cachés. Ils ont été trouvés assez rapidement. Moi, j'ai regardé les photos d'époque en 99 du procès. On y voit deux gosses, deux minots, deux petits, 12 et 13 ans, qui ont l'air tout perdus. Enfin, c'est très difficile, je trouve, de regarder ces photos qui sont pourtant des photos statiques, qui en termes de photographie n'amènent pas forcément grand-chose. Certaines arrivent malgré tout à saisir ces regards. Et c'est des gosses. Voilà. Donc ça, c'est le pays de Monsieur Barack Obama.
Donc aucune circonstance atténuante du coup à l'époque. Non. Est-ce que les violeurs ont été condamnés? On sait ça.
Alors non, puisque les preuves ont été mises de côté. Alors, des documents qui sont récents, donc peut-être que ça pourrait relancer les choses. Mais après, je ne connais pas effectivement si les faits peuvent encore être jugés actuellement. C'est une chose que j'ai pas vérifiée avant cette émission. Toujours est-il que voilà, c'est ça la justice aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, c'est-à-dire qu'on peut juger les enfants
qui ont tué quelqu'un parce qu'ils étaient violés
et même
et
juger,
pas condamner les violeurs. Quoi.
Voilà. Et puis même, on peut aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique condamner et juger des enfants comme des adultes, quoi qu'ils aient fait, quelle que soit la raison pour laquelle ils l'ont fait. Ça reste des gosses, 12 et 13 ans, c'est quand même assez incroyable. Ouais. Dans une démocratie.
Alors, on part en Angola. On parle assez peu de l'Angola dans ce Canu Info. Une petite brève aujourd'hui, puisque il y a un peu des manifestations en Angola depuis quelques temps. Alors, l'Angola, pour se rappeler, c'est en théorie une démocratie, mais avec José Eduardo Santos, le fameux et le célèbre Dos Santos, qui est au pouvoir depuis 32 ou 33 ans, un truc comme ça. Donc, ça vous donne une idée de la gueule de la démocratie angolaise. En ce moment, il y a de l'opposition, un petit peu, des mouvements des manifestations portées par des militants. Il y a un rapport qui est assez célèbre, un rappeur assez célèbre, qui a porté un petit peu le mouvement de rébellion. Et les manifestations dégénèrent, notamment aujourd'hui, puisque hier on a appris que pas mal de gens avaient été arrêtés dans la manif d'hier, notamment des journalistes. Et les journalistes en Angola en ce moment, c'est pas facile. Les radios sont bloquées. Alors ce qui s'est passé durant la manif d'ailleurs, puisque la radio, une radio qui soutient, une radio d'opposition qui s'appelle Radio Despertar, a été entourée par les forces de répression angolaise pour empêcher les journalistes de sortir couvrir la manifestation. Donc c'est pas mal. Et un journaliste de cette radio qui était déjà sorti, Goncalves Vieira, lui a été arrêté pendant un petit moment parce qu'il faisait son travail de journaliste sur cette manifestation. Manifestation qui a subi bien évidemment les foudres des forces de répression, de la police, et en plus, c'était compliqué puisque le parti au pouvoir, face à cette manifestation, avait organisé sa propre manifestation. Hein, c'est le MP et là, le parti au pouvoir. Du coup, il y a eu aussi affrontement avec les autres militants du pouvoir, mis en place par le pouvoir, cette contre-manifestation officielle. Donc voilà, depuis mi-juin, 15 militants sont en tôle et risquent de plus de 35 ans de prison officiellement pour avoir tenté de renverser le président. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas tenté. Oui, quelque part, ils voulaient renverser et on les soutient, on conçoit très bien qu'ils aient envie de renverser ce pseudo-président qu'est Monsieur Dos Santos. Sauf qu'en fait, ils organisaient juste des manifestations qui sont perçues comme des soulèvements par la justice et le pouvoir du pays, donc le pouvoir angolais. Et du coup, voilà, ils risquent 35 ans de prison pour faire en gros presque une tentative de coup d'État. Voilà, bon courage pour les Angolais, les militants angolais, les résistants angolais.
Alors, je voudrais maintenant vous parler de Jonathan Pollard. Jonathan Pollard, c'est un espion qui est assez connu. Il est né dans les années 50 aux États-Unis d'Amérique, dans une famille juive, plutôt porté sur le soutien à Israël. Dans les années 70, il a été aussi un étudiant assez actif. Et puis, dans les années 80, il rejoint la Navy et il devient analyste en risque terroriste. Il avait tenté d'intégrer la CIA, ça n'a pas marché. Et puis, un jour, il va rencontrer un agent israélien. Et c'est là que tout va commencer avec cette légende de Jonathan Pollard.
Tu veux dire qu'il aurait basculé dans le Mossad, tout ça, et puis ça fait un scénario de film après?
C'est ça, c'est un peu tout à fait. C'est digne d'un film d'espionnage. Alors, pourquoi Jonathan Pollard il est aussi connu? C'est parce qu'il s'est fait attraper aux États-Unis d'Amérique et qu'il avait été condamné à perpétuité pour espionnage au profit d'Israël. Alors, ça a été une source de tension assez importante entre les États-Unis et Israël pendant jusqu'à présent. Alors bon, faut dire que entre mai 84 et novembre 85, c'est des milliers de documents que Jonathan Pollard a transmis au Mossad. Des documents évidemment classés secret défense sur les activités d'espionnage des États-Unis d'Amérique. Alors, il y a un document de 1987, un rapport de la CIA qui a été déclassifié en décembre 2012. On apprend à l'intérieur que les informations qui ont été livrées portaient sur les pays arabes et l'Union soviétique. D'après ce rapport, ces informations ont aidé Israël à bombarder en 85 le QG de l'OLP installé à Tunis et à assassiner en 88 le numéro 2 de l'OLP Abu Ziyad. Donc voilà, des informations qui ont servi. Pourtant c'est court, hein, mai 84, novembre 85, il a a priori été efficace, mais bon, faut dire aussi qu'il a fait tout ça en échange de 50 000 $ et la promesse de beaucoup d'autres petits billets verts. Alors, je vous le disais, il s'est fait arrêter. Il a été condamné à la prison à perpétuité en 87. Il avait plaidé coupable. Son épouse d'alors, Anne, a été condamnée à 5 ans de prison. Et il va être mis en liberté le 21 novembre prochain. Il en avait la possibilité. Il était éligible pour une libération conditionnelle. Voilà, en sachant que l'administration de M. Obama avait fait savoir jeudi dernier qu'elle s'y opposait pas. Donc, on allait dans ce sens, et comme c'était source de conflits quand même au niveau diplomatique, ça faisait un moment que tout ça...
Bon, il a fait suffisamment de prison peut-être.
Oui.
Il peut retourner où il veut et faire un autre métier sans être espion.
Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment à l'époque ça s'est passé, puisque à un moment, il décide de faire ses valises avec sa femme, et il tente de rejoindre l'ambassade d'Israël à Washington, simplement l'ambassade ne laisse pas rentrer, puisqu'elle ne le reconnaît pas comme un citoyen israélien. Il faudra attendre 1995 pour qu'il obtienne la nationalité et 1998 pour qu'il soit reconnu comme un agent du Mossad. Donc ça s'est quand même pas fait tout de suite.
Temps, hein.
Julie, ça prend quand même quelques décennies tout ça. Alors maman, on avait parlé de peut-être il allait être échangé. On avait parlé aussi de le rendre en Israël pour essayer de calmer un petit peu des colères à des moments où il y avait eu du soutien un peu timide, certes, des États-Unis d'Amérique pour que des prisonniers palestiniens soient relâchés. Donc il y a un moment où on parlait même d'échanges entre des Palestiniens et lui. Lui, il avait dit qu'il voulait absolument pas ça, il est opposé, il soutient Israël, il voulait absolument pas être échangé contre un Arabe, un Palestinien. Alors, certes, il va être libéré au mois de novembre, mais il va devoir rester sur le sol des États-Unis d'Amérique pendant au moins 5 ans.
Le temps que sa peine...
Ouais, ça, après, c'est... Ouais, et puis,
ça, alors,
Barack Obama pourrait, évidemment, casser cette procédure et lui permettre de quitter le pays. Il faut savoir qu'en Israël, tout le monde connaît Jonathan Pollard. Quand vous allez un petit peu dans plein de villes, il y a sa photo de partout. Il y a beaucoup d'organisations qui le soutiennent. Donc voilà, là, c'était quand même un peu victoire en Israël, puisqu'il va être libéré. Alors, les avocats tente de le faire libérer plus tôt que le mois de novembre, donc ils en appellent à la clémence. A priori, il est plutôt pas très en forme au niveau de sa santé, c'est aussi pour ça que les avocats insistent un petit peu. Alors, la question maintenant est de savoir pourquoi maintenant, à quel moment. Alors, il y a quelques analyses qui disent que peut-être que ça pourrait être une compensation.
Pour les accords signés avec l'Iran.
Exactement. Ouais. Le secrétaire d'État, M. John Kerry, a assuré que c'était absolument pas le cas. Du côté d'Israël, c'est pareil, on nie toute négociation et toute discussion dans ce sens. Bon, toujours est-il que voilà, il est libre. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est un traître. Pour une partie des Israéliens, c'est un martyr.
Et un héros.
Et un héros, tout à fait.
Pour les Palestiniens, c'est un monstre, hein, puisqu'il a fait tuer des gens et des militants palestiniens.
Et puis il assume. Hein.
C'est un salaud.
Voilà, pendant sa détention, il avait dit qu'il aimerait aller vivre en Israël, mais pour l'instant, il a un travail, a priori, un logement et une nouvelle femme aux États-Unis d'Amérique pour refaire sa vie. Voilà, on verra par la suite.
C'est à moi et je parle du Népal. Et je vais parler des nanimaux. On parle pas souvent des nanimaux ici. Et c'est une grande victoire pour les défenseurs de la cause animale qui arrivait. Je vais vous parler d'un truc que je connaissais pas. Enfin, j'avais déjà entendu parler puisque quelques années, des photos absolument horribles avaient circulé sur Internet. sur la fête de Ganymède, le festival de Ganymède très exactement, qui est un festival où chaque année, dans tous les 5 ans, des gens viennent et sacrifient des animaux pour ce dieu, cette déesse, je crois que c'est une déesse, Ganymède. Et ces dernières années, ça allait jusqu'à 500 000 animaux qui étaient donc décapités à la machette et abandonnés sur place, hein, puisque ils en faisaient rien. C'est juste il y a des photos, on voit un champ d'animaux morts avec du sang partout. Enfin, c'est horrible. C'est une sorte de les sacrifices restent quelque chose d'assez barbare, hein, quand même. D'ailleurs, les religions ont presque tout abandonné. Pourtant, ça y est encore, hein, dans les textes, dans le Saint Testament, on fait des sacrifices. Mais les trois religions monothéistes ont abandonné quand même l'idée de sacrifice, et tant mieux. On peut leur dire qu'elles ont quand même évolué, hein, sur un truc, au moins sur ça. Et donc, la dernière fois, il y a eu un peu moins d'assassinats d'animaux. Et cette fois, c'est une belle victoire, puisque suite aux pressions, aux reportages, à tout ce qu'il y a pu avoir, dirigeants du festival ont annoncé que pour la prochaine édition, en 2019, il n'y aurait pas de sacrifice, parce que dorénavant les sacrifices seraient interdits et qu'ils allaient plutôt faire un festival autour de la paix plutôt que de faire un truc qui se termine dans le sang. Voilà. Alors ça fait quand même 300 ans, hein, que cette tradition, parce que c'est une tradition, existait. Alors la légende dit que Ganymède était apparu en rêve à un prisonnier qui lui avait demandé de construire un temple en son honneur, et lorsqu'il s'est réveillé de son rêve, où il a entendu cette déesse ou ce dieu, je ne sais plus si c'est un homme ou une femme, enfin c'est un dieu, et il avait construit ce temple et sacrifié des animaux pour la remercier, et du coup était née cette tradition. Et tous les 5 ans, 5 millions de pèlerins viennent, à peu près 80% d'Indiens d'ailleurs, sacrifier des animaux lors de ce festival. Donc là, c'est une belle victoire. Une victoire parce que 500 000 animaux sauvés, c'est toujours ça de gagner. Et ça démontre aussi une chose qui est très très importante, c'est que c'est pas parce qu'il y a des traditions que ces traditions sont barbares qu'on doit continuer de poursuivre dans ces traditions quand elles sont barbares, parce que les gens évoluent, les mentalités évoluent, et on apprend maintenant à respecter les êtres vivants qui sont présents sur la planète Terre. Et même peut-être si on a un jour on en rencontre ailleurs, on les protégera peut-être aussi. Et voilà, ça démontre que tous les réactionnaires qui disent mais c'est une tradition, faut continuer les combats de coqs comme on en avait parlé il y a pas longtemps, faut continuer la tauromachie, faut continuer toutes ces horreurs là, ben non, là les Indiens viennent de démontrer que quand les traditions sont pas bonnes, eh ben faut les changer. Ils continuent de faire, de vénérer. Il y a des gens, hein, ils étaient 5 millions quand même la dernière fois, à venir vénérer cette déesse Ganymède. Et ben ils la vénéreront cette fois-ci sans le sang, et pour parler, comme il l'a dit, le responsable, de la paix. Donc voilà, c'est pour montrer que tout peut évoluer, même les traditions.
Alors nous allons attaquer une page facho, et nous allons commencer avec Monsieur Estrosi. C'est le faux cul de la semaine.
Ouais.
On va dire ça.
Alors officiellement, il n'est pas facho, puisqu'il est membre de Les Républicains.
Ouais.
Mais il est très, très à droite quand même, et il a souvent des propos racistes ou xénophobes ou autres.
Oui, la discrimination, il connaît bien, ouais. Effectivement. Alors, c'était le mercredi 22 juillet, il a écrit une lettre à Madame Marine Le Pen, une lettre avec papier en tête, hein, dessus on voit le logo de l'Assemblée nationale. Je vous rappelle que Monsieur Estrosi est député maire de Nice. Il a envoyé cette charmante lettre au JDD, vous pouvez la trouver sur le site internet. Et alors, pourquoi il lui a écrit à Madame...
Parce qu'il a peur de perdre les prochaines élections.
Ouais. Alors, plus précisément, il s'attaque à quelque chose de précis, puisqu'il demande l'exclusion de Marion Maréchal Le Pen.
Et oui, c'est la candidate qui se présente contre lui. Et elle a un peu la cote, hein, cette petite jeune femme d'extrême droite. Et il a peur, le monsieur Mariani.
Alors, il s'attaque à quelqu'un de précis dans le cadre de cette campagne électorale. Il s'attaque à monsieur Philippe Vardon. Le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est un identitaire niçois bien connu par là-bas et bien ailleurs. Alors d'après Madame Marion Maréchal Le Pen, il a beaucoup évolué. Bon, en même temps, nous on pense qu'il a bien sa place au Front National, il n'y a pas de souci. Donc Monsieur Estrosi, qui comme tu le rappelais tout à l'heure, est quand même connu pour ses débordements médiatiques racistes et discriminants, sexistes, enfin bon, il est homophobe, il a fait plein de choses, vient donc donner des leçons de morale
à l'extrême droite.
Au Front National.
C'est
tout
pas
à
mal.
Fait. Alors, il explique, cet individu, en parlant de monsieur Philippe Vardon, cet individu, par son comportement, ses déclarations et son idéologie, est actuellement l'alpha et l'oméga d'une radicalisation qui menace elle aussi notre vivre ensemble. C'est pas mal quand même, parce qu'il a l'air un peu d'oublier ses propos, hein, parce qu'il suffit de taper monsieur Estrosi et puis de remonter un petit peu dans la presse pour se souvenir de ses déclarations. Et puis, ce qui est assez drôle, c'est un paragraphe. « Enfin, je veux vous alerter sur la dérive christianophobe de votre nièce. »
Oula, elle est christianophobe.
« Lors de son lancement de campagne le 5 juillet dernier, cette dernière n'a rien trouvé de mieux que de comparer la réforme protestante à l'occupation de la France par les nazis. Si cette comparaison n'est pas juste historiquement parlant, elle est très grave par son caractère stigmatisant à outrance. Non contente d'insulter certains habitants de la région, il fallait qu'elle blesse des millions de croyants. » Ah, mais ça se bataille à l'extrême droite quand même en France, hein. On est sur...
Alors du coup, lui, et, elle, donc d'abord Marion Maréchal Le Pen, et lui, ranime la guerre catholique-protestant, quoi. Un truc qu'on pensait que c'était un peu mort quand même, parce qu'il y a eu suffisamment de massacres dans le passé, quoi. Et non, ils remettent de l'huile sur le feu.
Et à la fin, nous trouvons cette belle question. Une question se pose alors, Madame Le Pen. Allez-vous de nouveau avoir la main qui tremble ou allez-vous vous comporter comme la femme d'État que vous prétendez être et exclure votre nièce du Front National ?
Ah ben, tu veux ? Moi, j'ai la réponse, elle ne va pas l'exclure. Hein.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que quand on lit en intégralité cette lettre, on sent quand même un petit peu un mépris pour cette jeune femme qu'est Marion Maréchal Le Pen. C'est-à-dire qu'au-delà...
qui mérite notre mépris.
Tout à fait. Mais ça n'empêche pas qu'on sent quand même cette espèce de d'arrogance de l'âge et puis du sexe.
C'est une femme, hein, elle est jeune. Mais bon, c'est une facho, donc du coup, elle mérite quand même notre mépris. Hein.
Voilà, mais ça n'empêche pas que M. Estrosi aussi.
Aussi, exactement.
Mettons-nous bien d'accord.
Ah bah, on va donner notre mépris à d'autres, là, tout de suite. Vous connaissez malheureusement sûrement Égalité et Réconciliation, un de ces groupes d'extrême droite qui avance assez masqué, hein, pour des gens qui ne seraient pas bien au courant des mouvances et des fractions diverses dans l'extrême droite. Il y a une nouvelle réunion qui s'est faite et qui a accouché d'un parti. C'est leur rencontre, pas la rencontre, mais le rassemblement entre Alain Soral et Dieudonné, qui ont officiellement lancé, heureusement ça a été repris par personne, du coup il n'y a pas d'emballement médiatique, leur nouveau parti pour les prochaines élections qui s'appellera Réconciliation Nationale. Donc l'objectif, hein, c'est de se distinguer du Front National, là aussi. Donc parce que, d'après Soral et Dieudonné, le Front National serait devenu pro-israélien. Donc, comme eux, ils sont antisémites, ils mettent ça en avant. Nous, on est différents du Front National parce qu'on est antisémites, alors que le Front National est pro-israélien. Alors d'abord, le Front National n'est pas pro-israélien du tout, mais il y a eu quelques discours, notamment d'Emeric Choprade, qui a un positionnement plutôt pro-israélien effectivement au sein du Front National, mais ça n'est pas une ligne politique du Front National. En tout cas, c'est le moyen de se démarquer politiquement, parce qu'il faut bien en trouver quand on est facho et qu'on a des idées qui se rapprochent. Voilà. Et on a même appris, et on verra ce que ça donne, que pour le 87e anniversaire de Jean-Marie Le Pen, les deux petits compagnons fachos, Soral et Dieudonné, étaient là et ont beaucoup discuté, donc peut-être un parti à trois, puisqu'il va se faire exclure, hein, du Front National. On aura peut-être Jean-Marie Le Pen, Alain Soral et Dieudonné main dans la main pour vendre leurs idées d'extrême droite. Alors, je continue. Ah non, c'est à toi. Non,
vas-y, vas-y. Tu peux continuer si tu veux.
Je referai l'autre parti extrême droite juste après.
On est dans la même idée, hein, je vais poursuivre avec le Front National. Bon, d'abord, ce truc qui m'a fait bien rigoler, c'était hier, Madame Marine Le Pen, encore elle, a dénoncé dans une lettre ouverte à la présidente de la CNIL l'espionnage généralisé des ordinateurs des Français par le biais du nouveau système d'exploitation Windows 10, comme si elle y connaissait quelque chose.
Ouais, on peut lui dire qu'on n'est pas obligé d'avoir Windows, on pouvait avoir Linux, comme c'est le cas sur les ordinateurs de Radio Canut.
Alors, ce qui m'a fait marrer, moi, C'est la réponse qui lui a été faite, parce qu'elle vient de quelqu'un dont on s'y attendait pas forcément. Il s'agit de Marc Mossé, c'est le directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France. Je précise qu'il est au Parti Socialiste, il est dans la région de Meudon. Et il a répondu par un tweet qui a fait bien marrer un peu tout le monde. Il a écrit « Plus facile d'installer Windows 10 que de désinstaller Jean-Marie Le Pen ».
C'est très très bon. Voilà. Il faut un peu d'humour.
Merci quand même, parce que...
Voilà, on va pas défendre Microsoft, parce que c'est notre ennemi aussi. Mais, quelque part, répondre aux fachos par de l'humour, c'est ce qui est le plus efficace.
Ouais, puis quand les entreprises répondent aux petits nazis, ça fait du bien aussi, parce que ça veut dire qu'il y a quand même aussi une prise un petit peu il y a un parti pris et que c'est ça qui est intéressant. Et alors je vais continuer donc avec le FN, et là on va partir à Fréjus, c'est dans le Var, ville qui est donc devenue une municipalité FN dirigée par monsieur David Reichlin. Et alors il a des idées, puisque au conseil municipal il a annoncé du 21 juillet dernier, il a annoncé tout plein de choses, et donc il souhaite qu'une quinzaine d'artistes et d'artisans d'art de Fréjus qui sont installés dans des locaux loué à bas prix, comme on dit, par la municipalité, participe en contrepartie, et bénévolement bien évidemment, à l'accueil d'enfants dans le cadre de l'aménagement des rythmes scolaires.
Ah, ils ont trouvé un truc pour faire travailler des gens gratuitement.
Ouais. Alors, ça serait de 16h30 à 18h, dans leurs locaux. Alors, évidemment, ça pose un peu quand même quelques questions. Ce sont des artisans, des artistes, pas des gens forcément formés pour encadrer des jeunes, très jeunes enfants.
On imagine que leurs locaux sont pas forcément prévus pour recevoir du public.
Exactement.
Non plus.
Il se pose aussi des questions, c'est qui va prendre en charge les assurances, par exemple, parce que d'un seul coup, il y a du public qui vient, comment tout ça se passe. Enfin bon, apparemment, quand même, au FN, on réfléchit pas toujours à ce genre de côté un peu pratique. Et puis, là où ils sont pas contents, ces artistes et ces artisans d'art, c'est que ils se sont regroupés au sein d'un circuit des métiers d'art. Et grâce à ce circuit, Fréjus augmente sa fréquentation touristique. Donc ils participent à l'effort dans la ville, à l'effort économique même, puisque ils font vivre Fréjus tout simplement. Et alors donc elle a demandé à côté de ça des contreparties pour aller occuper les enfants de 16h30 à 18h. Là, je crois qu'on touche le fond, d'autant plus que monsieur Reichlin est quelqu'un qui a l'air d'être tout en douceur, puisque au conseil municipal, il y a eu un enregistrement de faits qui a été récupéré par l'AFP, et ça donne une déclaration comme celle-ci. Le débat va s'arrêter ici, soit cela se passe bien et tout le monde est d'accord pour participer, soit je mets un terme à cette histoire où l'on paye des loyers à tout le monde. Voilà, donc c'est clair comme cela, je leur ai dit publiquement. Attention, il y va. Alors, voilà, c'est le principe des villes FN, c'est-à-dire qu'on coupe progressivement, on interdit, on les vire, tous ces artistes en particulier, hein, parce que le Front National, on a bien compris, n'aime pas les artistes, n'aime pas le spectacle. Il y a trop d'argent qui est dépensé pour soutenir ces gens-là, comme ils disent. Monsieur Richard Serre, premier adjoint à la mairie de Fréjus, lui aussi, il en a remis une couche en expliquant notre position. C'est que chacun a des droits et des devoirs. Ces artistes bénéficient de conditions d'occupation très favorables, avec des loyers modiques, pour ne pas dire plus. Hein, vous avez entendu, c'est encore cette petite reprise. En retour, on attend qu'ils contribuent à la vie culturelle et artistique de Fréjus. Bah, c'est bien ce qu'ils font, puisque je vous l'ai dit, ils font partie de ce circuit des métiers d'art. Donc bon, voilà, c'est toujours à surveiller, toujours cette vigilance à avoir par rapport à tout ce qui peut se passer dans ces municipalités FN. Parce qu'à chaque fois, ils finissent par s'attaquer à des gens, à des associations, à des structures. Alors on connaissait le principe des bibliothèques, hein, mais maintenant on va s'attaquer aussi à des artistes et des artisans d'art.
Pour poursuivre dans l'extrême droite qui arrive masquée, beaucoup plus masquée que le Front National, on va parler de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, qui est menée par François Asselineau, hein, qui est un petit filou, puisqu'il arrive à se faire inviter. Il a même eu droit à une interview sur Radio Canut, parce que il arrive à abuser des gens, alors que c'est un vrai parti souverainiste, donc avec des idées d'extrême droite à l'intérieur. Et là, il était en visite à La Réunion, il avait son 8e adhérent dans son parti l'Union Populaire Républicaine, qui venait qui était issu de l'île de La Réunion, donc il est allé là-bas. Donc, il est allé faire un petit coucou, comme ça, et il a dit cette grande phrase pour montrer que lui aussi, il est un très très bon révisionniste. Je cite, dans cette terre française depuis toujours, des Françaises de toute ethnie, de toutes les religions, de toutes les convictions y vivent de façon harmonieuse dans une réunion autour des grandes valeurs de la France et de la République. Donc c'est le début de la phrase qui est bien évidemment fausse. Dans cette terre française depuis toujours. C'est intéressant. Intéressant d'entendre ça quand on sait que la France n'est pas française depuis toujours. Hein, si vous regardez l'histoire de France, c'est récent. L'histoire, alors d'abord, même au niveau de l'Europe, l'histoire des nations, c'est récent à l'échelle de l'histoire des êtres humains sur la planète. Hein, parce que ça a quelques siècles au maximum, l'histoire des pays. La France est une réunion qui est récente aussi. Hein, on rappelle, la région Rhône-Alpes faisait pas partie de la France, on parlait pas français, on parlait une langue issue du franco-provençal qui était le lyonnais. Enfin, c'est très récent cette idée de France. Donc vouloir que faire du révisionnisme, comme ceux qui disent que l'Europe est forcément chrétienne, alors que les chrétiens sont là depuis 1500 ans, alors que l'Europe elle existe depuis bien plus longtemps que ça, en tout cas des hommes vivent sur cette terre depuis bien plus longtemps que ça. Là voilà, c'est un beau discours révisionniste, ce qui est pas surprenant de la part de François Asselineau et de son parti l'UPR, hein, qui est un parti souverainiste, qui a besoin de véhiculer des idées nationalistes, et pour ça, il faut retrafiquer l'histoire. Comme c'est l'idée de nation est récente, ils peuvent pas s'appuyer sur l'histoire réelle, donc ils sont obligés d'inventer une histoire, de la trafiquer, de la modifier, parce que sinon leur discours nationaliste fonctionne pas, et notamment à La Réunion, puisque La Réunion, l'occupation de La Réunion était compliquée, il y a eu des population arabe, c'est a priori ce qu'on remonte le plus loin des traces qu'on ait. Ensuite, il y a eu différentes occupations et c'est au tournant du 17e et 18e siècle que la France a pris position officielle de cette colonie qui était La Réunion. Et surtout, dire même de dire que la France est là depuis un certain temps, c'est quelle France qui est là, quoi. La Réunion, c'est avant tout la France colonisatrice et esclavagiste qui était présente à La Réunion. Donc défendre ces idées-là de la présence de la France qui a fait tout pour que les gens soient esclaves, c'est une catastrophe, c'est une horreur la présence française à La Réunion dans une grande partie de l'histoire récente. Pas actuellement, bien évidemment. Donc, avoir ce discours révisionniste sur l'histoire, c'est quand même affligeant, mais on n'en attendait pas moins d'un militant de l'extrême droite, comme peut l'être François Asselineau.
Alors, on va parler de cette affaire de la grosse connasse et de boulanger.
Ouais, puisque là, dit grosse connasse, comme ça, c'est pas sympa quand même.
Fort accent africain, n'a pas de cerveau, client très con. Client casse-couille, client très chiant, folle, cliente de confession juive, cliente avec problème cardiaque, client alcoolique, client s'est fait opérer d'une hernie discale il y a 3 mois, me passe son mari atteint de Parkinson, et donc grosse connasse qui se croit tout permis.
Et alors boulanger, c'est pas votre boulanger, hein, c'est les magasins boulangers qui vendent de l'électroménager.
Et du multimédia, effectivement. Alors ces commentaires apparaissent sur les fiches clients du service après-vente de l'enseigne, je rappellerai. Si vous l'aviez peut-être oublié, que boulanger, c'est la famille Muyez, hein, c'est Auchan, Décathlon, c'est tout ça. C'est bien de reposer un petit peu le contexte. Alors comment tout ça s'est passé? Alors il était une fois en février, après un accrochage avec un salarié du magasin Dalmas, une cliente demande à consulter sa fiche. L'occasion de vous rappeler que les clients ont droit à un regard systématique sur les commentaires de leur fiche client. Eh oui, il faut le savoir. Et là, et elle le savait, elle constate que la mention cliente pénible la concernant y figure, et elle alerte la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté. Cette CNIL se rend le 10 février dernier dans le magasin pour un contrôle.
Et là, patatras.
Oui, extraction de la base de données et 5828 commentaires insultants seront censés.
5800.
Eh oui, parce que
il y avait une espèce de tradition.
Mais
dans ce magasin.
En fait, si tu veux, c'est que cette application sert à l'ensemble des 122 magasins boulangers en France. Donc c'est impossible exactement de savoir combien de salariés écrivent ces commentaires précisément. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de très généralisé ou est-ce que c'est certains et certaines qui mettent une certaine volonté à inscrire ce genre de commentaires. Alors la mise en demeure de la CNIL date du 26 juin dernier, mais elle vient juste d'être rendue publique. Cette mise en demeure porte sur plusieurs manquements à la loi informatique et liberté, et notamment une critique sur cet outil national de gestion des clients utilisé par Boulangerie. Donc cet outil, en fait, il permet donc de rentrer des informations quand il y a une facture qui est éditée, il y a du suivi donc avec le service après-vente, et ces informations, elles peuvent être complétées, excusez-moi, par des zones libres dans lesquelles on peut indiquer effectivement quelques informations qui sont tout à fait légales. C'est-à-dire que ces zones libres, elles ont le droit d'exister, elles ont le droit d'être là. Sauf que la CNIL, elle rappelle que ces informations doivent être objectives et en relation avec la prestation commerciale. C'est là où tout de suite la confession juive, ça a dû quand même vous le tilter, parce qu'avec la télévision, on n'est pas sûr d'avoir vu le rapport. Et puis, ces informations ne doivent pas porter à l'image de la personne, hein, donc alcoolique, fort accent africain, voilà, tout ça, c'est aussi des choix. Donc tout ça, la CNIL qualifie ces commentaires de non pertinents et contraires aux obligations des différents articles. Et elle explique aussi qu'il y a des choses qu'on peut indiquer. C'est-à-dire que, par exemple, ils auraient pu indiquer les salariés clients ou clientes difficiles.
Oui, jusqu'à...
Ils auraient pu inscrire ça, c'est tout à fait permis. C'est aussi tout à fait désagréable,
Mais on peut être un client difficile.
Alors, la CNIL, elle fait des propositions. Elle propose à Boulanger, par exemple, de mettre des filtres automatiques qui empêcheraient les salariés d'écrire certains mots. Enfin, des petites idées comme ça, qui a amené aussi très rapidement Boulanger à réagir. Puisque, par exemple, évidemment, il y a eu des excuses sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Twitter. Il y a des excuses sincères. Et évidemment, on nous explique que toutes les mesures vont être prises pour remédier à tous ces désagréments et ces dysfonctionnements. Évidemment, ils condamnent à la direction les commentaires. C'est facile, toujours de condamner.
Oui, surtout que si c'était un commentaire d'un magasin, on se dirait, ils l'ont pas vu. 5800 commentaires insultants sur des fiches accessibles de tous les magasins. Forcément, tout le monde était au courant dans ces services-là, en tout cas.
Alors, donc, il y a cette affaire de fiches, mais la CNIL en a profité pour mettre un peu son nez et à chercher d'autres choses. Et alors, une des constatations, je bafouille ce soir, excusez-moi, supplémentaires ont été effectuées le 23 avril dernier sur le site boulanger.com. Et c'est là où la direction, elle peut s'excuser. Hein, parce qu'on sent bien quand même qu'il y a des systèmes qui sont mis en place. Parce que ça, c'est pas les petits salariés en bas de l'échelle, hein, c'est pas les vendeurs, c'est pas les travailleurs du bas, face à la direction qui a pu prendre de telles décisions. Et alors la CNIL a relevé une utilisation abusive des cookies, hein, vous savez, ces petits traceurs qui se mettent en place quand vous vous baladez sur des sites internet. Alors, vous avez bien l'information, comme maintenant tous les sites, en poursuivant votre navigation, vous acceptez
les cookies,
l'utilisation des cookies, blablabla. Le problème, c'est que le dépôt des cookies sur le site de boulanger.com s'opérait dès la connexion au site, avant donc tout consentement ou même donc toute apparition complète de la page, ce qui n'est pas permis. Alors, il y a des, en plus de ça, ce qui est intéressant auprès de ces, avec ces cookies, c'est que les cookies, ils sont acceptés par la CNIL quand ils servent de traceurs pour une commercialisation, pour une connexion. Bah, tout ça, évidemment, c'est mis en place dans une logique, de vente sur Internet. Mais alors, ce que la CNIL a découvert, c'est qu'il y avait beaucoup de cookies à caractère publicitaire sur les 108 cookies relevés par la CNIL lors d'une opération. 90 étaient des cookies publicitaires. C'est-à-dire que là, il y a un problème que la CNIL soulève, et surtout elle soulève la durée de vie de ces cookies publicitaires, puisque leur durée de vie pouvait aller jusqu'à 15 ans. La CNIL, elle recommande 13 mois.
Ce qui est déjà beaucoup.
Rendez-vous compte, 15 ans pour le site de boulanger.com. Alors, il paraît que en octobre, tout va être mis à plat, que vous pourrez tous retourner consommer à Boulanger. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu pourquoi la CNIL, elle a fait ça. Parce que là, on peut se dire, mais et les amendes ? Delphine, tu n'as pas parlé d'amende.
Ouais, il n'y a pas de poursuite en justice, il n'y a pas d'amende, il n'y a rien.
Non, c'est plus une dénonciation en place publique. Dans son communiqué du 23 juillet dernier, la CNIL explique « Cette mise en demeure est rendue publique afin d'appeler notamment l'attention des entreprises sur la nécessité de ne pas enregistrer de commentaires excessifs dans leurs fichiers clients. » C'est-à-dire que c'est une mise en garde à l'attention de tout le monde. On a sorti Boulanger, médiatiquement, ça c'est su. Attention, on est derrière, on vous surveille. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais voilà, c'est là la manière de fonctionner actuellement de la CNIL, c'est d'aller en choper un. Là, c'est grâce à une cliente, quand même. Il faut bien se rendre compte de ça, qui est allée faire un geste que la plupart d'entre nous, on ne fera jamais et qu'on ne fait jamais. que cette affaire elle est sortie et qu'elle est médiatisée et qu'aujourd'hui Boulanger ils l'ont mal quand même, hein, parce que là franchement c'est pas très beau ce qui est en train de se passer. Mais est-ce que ça va suffire à faire un petit peu peur aux autres entreprises? Ben ça, je suis pas bien sûr.
Allez, on va parler un petit peu vélo et avec une très belle initiative qui date d'un petit moment, mais le bilan vient d'être fait. C'est à Copenhague que ça se passe. C'est la première ville vélo du monde, hein, Copenhague. Il faut le savoir. Et faut le savoir que c'est mérité aussi. Hein,
si vous, ouais, vous après avez... c'est plat, hein, faudrait aussi peut-être le dire.
Ouais, enfin,
ça bon, facilite. Non, mais je veux dire, ça a facilité aussi un développement. Hein.
Mais bon, si vous allez vous comparer deux villes plates, une ville française plate et une ville française qu'est Copenhague, vous allez voir une ville danoise qu'est Copenhague. Vous allez voir que c'est totalement différent. Hein. Bon, bref. Ils ont créé pour la première fois, non pas donc vous imaginez, vous connaissez les routes françaises, hein, les routes même du majoritaire du monde entier, c'est les voitures qui ont une position dominante sur la route et quelquefois les politiques donnent des miettes aux cyclistes, on appelle ça des pistes cyclables. Ben là ils ont fait l'inverse, et ils ont fait une rue pour les cyclistes, donc une rue cycliste. Avec une piste bagnolable, on pourrait l'appeler. Une piste juste pour les voitures. Une piste, hein. Alors, c'est une rue qui s'appelle Westergade. Je dois mal prononcer, hein, mais je vous m'en excuserai. Ça veut dire rue de l'Ouest. Donc, une artère qui est relativement longue, qui est relativement étroite aussi. Donc, sur cette artère, alors, ils ont pas mis des panneaux partout, parce que comme ils ont l'habitude du vélo, il suffit de mettre un panneau rue cycliste. Dans leur langue, ça se lit Cicalgade. Et d'un seul coup, tout a changé. Donc, les cyclistes ont le droit de faire des allers-retours. Donc, c'est une rue en sens, double sens. Les voitures, ils ont juste leur piste en sens unique. L'impact que ça a, c'est que ça a diminué pas mal les accidents, parce que c'était une rue qui était relativement dangereuse pour les piétons et pour les vélos. Maintenant que le vélo est prioritaire sur les voitures, eh ben, les voitures sont calmées. Et au niveau de la circulation, eh ben oui, tout a changé, bien évidemment. Puisque, quand on regarde les chiffres de circulation de la voiture, ils ont beaucoup baissé, puisque on avait, il faut que je retrouve mes chiffres, 2400 voitures par jour qui passaient dans cette rue avant l'installation de cette rue au pro vélo. On est passé à 900 aujourd'hui. Et alors, le nombre de vélos, c'est 4600 par jour qui est devenu 8000 par jour. Bon, ça, 8000 par jour, si vous habitez Lyon, vous dites, mais comment c'est pas possible? Mais on n'est pas à Lyon, on est à Copenhague. Hein, à Lyon, la piste cyclable la plus fréquentée, quand elle atteint 500 vélos par jour, c'est déjà le record mondial, enfin, record français, quoi. Donc, oui, c'est un autre pays, oui, c'est une autre manière d'aborder les déplacements, oui, ils ont 50 ans d'avance, mais, voilà, pour montrer que ce genre d'initiative, ça peut marcher, et que ça fait plaisir, hein, si vous êtes cycliste, vous savez de quoi je parle, de l'omniprésence des voitures sur la chaussée. Donc le rêve, voilà, des cyclistes, d'avoir la rue entièrement à soi et de mettre que quelques pistes pour les bagnoles. Ce rêve a été réalisé dans une rue à Copenhague et peut-être que ça généralisera un jour à Copenhague.
Je voudrais vous parler maintenant de résistance de chercheurs qui, à l'occasion d'une conférence internationale sur l'intelligence artificielle à Buenos Aires, ont signé, plus de 1000 chercheurs ont signé et publié une lettre ouverte demandant d'interdire préventivement les armes autonomes offensives sans contrôle significatif d'un être humain. Oui, parce que vous savez, avec les drones, il y a un être humain qui conduit derrière. Hein. Je vais dire ça comme ça. Là, actuellement, on parle maintenant d'armes
automatiques, ouais.
Automatiques, sans l'intervention de l'être humain. Alors, je vais vous lire en fait une partie de cette lettre. Je trouve que ce sera bien plus intéressant que de faire une analyse tout de suite. Moi-même, on nous explique. Les enjeux sont de taille. Les armes autonomes sont décrites comme la troisième révolution de la guerre, après la poudre à canon et l'arme nucléaire. De nombreux arguments sont avancés pour défendre ou condamner ces armes. Le remplacement des soldats par des machines permettrait de réduire les pertes humaines pour celui qui les possède. À l'inverse, il lui permettrait de partir plus facilement en guerre. La question clé aujourd'hui pour l'humanité est de savoir s'il faut engager une course aux armes dotées d'une intelligence artificielle ou s'il faut l'arrêter dès le départ. Si une grande puissance militaire venait à développer de telles armes, cette course mondiale serait inévitable et l'issue évidente. Les armes autonomes deviendront les Kalachnikovs de demain. Contrairement aux armes nucléaires, elles ne requièrent pas de matières premières coûteuses ou difficiles à obtenir. Elles deviendront ainsi omniprésentes et n'importe quelle puissance militaire pourra les produire massivement à peu de frais. Ce ne sera alors qu'une question de temps avant qu'elle n'apparaisse sur le marché noir et finisse aux mains de terroristes, de dictateurs, de seigneurs de guerre voulant perpétrer un nettoyage ethnique. Les armes autonomes sont idéales pour assassiner, déstabiliser un pays, soumettre les populations et éliminer un groupe ethnique. C'est pourquoi nous pensons qu'une course aux armes dotées d'intelligence artificielle ne serait pas bénéfique pour l'humanité. C'est qu'une partie de ce texte que moi je trouve très engagée. C'est assez rare pour le souligner. C'est vrai qu'il y a une communauté scientifique qui, comme il nous le rappelle, a toujours été présente pour s'opposer à l'utilisation de la science pour faire la guerre.
Ouais, alors
en partie.
Ouais, c'est ça.
Mais il y en a toujours eu.
Il y en a toujours eu. Il y a toujours des scientifiques. Mais il y a aussi beaucoup de scientifiques qui ont bossé pour la guerre et qui continuent de bosser pour les fabricants d'armes.
Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'ils font cette lettre, qu'ils font cette lettre ouverte. Ils expliquent aussi dans cette lettre que ceux et celles qui actuellement travaillent sur cette intelligence artificielle n'ont pas envie de voir salir leur travail par d'autres qui voudraient faire la guerre et qui voudraient construire des armes. Donc ça aussi, ils le rappellent dans cette lettre. Moi, je trouve que c'est bien. C'est très intéressant parce que depuis déjà quelques années, il y a des ONG qui commencent un petit peu à émettre des interrogations sur ça. Il y a par exemple Human Rights Watch qui avait sorti en 2012 un premier rapport, qui vient d'en sortir un deuxième au printemps. L'idée pour ces organisations, c'est d'essayer de lancer la lutte, l'opposition et la mobilisation dans la même l'idée des mouvements contre les mines antipersonnelles, par exemple, les bombes à sous-munitions. C'est-à-dire que c'est essayer d'amener la réflexion, notre réflexion sur cette même idée. Ça a été quand même des victoires sur les mines antipersonnelles. Donc voilà, c'est un petit peu autour de tout ça aussi que chercheurs, organisations internationales tentent aujourd'hui de s'unir pour faire front contre ces armes qui sont, comme ils le rappellent, la troisième guerre possible, dans le sens où, effectivement, quand il n'y a plus l'être humain, ça change la donne. Et puis, ça peut être aussi une arme facile à produire et facile à construire.
Ouais, on se rapproche des livres de science-fiction des années 70 qu'avait écrit Philip K. Dick ou des gens comme ça. Ils imaginaient effectivement des armes automatiques autonomes. Et là, on n'est pas loin d'y arriver, hein, même si on n'y est pas tout à fait. Il faudra encore 4 ou 5 ans, je pense, pour les voir arriver. C'est le moment ou jamais, effectivement, de s'y opposer, parce qu'après, ça risque d'être effectivement trop tard.
Ouais, surtout pour l'instant, les États n'osent pas trop faire savoir qu'ils s'y intéressent. Ouais. Tout le monde cherche, mais personne ne veut vraiment affirmer travailler là-dessus, parce que pour l'instant, c'est encore pas très très, je pense, populaire.
Alors, on va parler un petit peu d'environnement maintenant, et vous avez peut-être appris ce matin, comme beaucoup d'entre nous et comme nous, le mariage ou le rapprochement entre EDF et Areva. Donc on en avait parlé, c'était dans les tuyaux, on ne savait pas si ça allait vraiment arriver, et ça y est, c'est officiel, ça a été annoncé, donc EDF va venir au chevet d'Areva. EDF va devenir en gros l'actionnaire majoritaire d'Areva NP, donc c'est la partie qui fabrique et qui entretient les réacteurs nucléaires. En gros, Areva est démantelé, hein, la partie retraitement, la partie gestion des déchets par exemple est séparée, ce sera pas dans EDF. Donc ça concerne l'activité construction des réacteurs essentiellement. Alors faut savoir que EDF est quand même endetté à hauteur de 34 milliards d'euros. Donc on ne sait pas où ils vont trouver l'argent. Ah bah si, on a une idée. C'est qu'EDF, c'est une entreprise d'État. C'est donc l'État qui va mettre de l'argent dans EDF pour qu'il le mette dans Areva. C'est donc les contribuables français qui vont payer tout ça. Ce qui est triste, hein, c'est que tous les Français ne prennent pas leur électricité à EDF. C'est le cas de Radio Canu. Et donc, pour quelle raison tout le monde devrait participer à cette entreprise qui est sur une technologie vieillissante, une technologie du passé, parce que le nucléaire, c'est pas l'avenir, jusqu'à preuve du contraire. Peut-être que je me trompe, on fera le bilan dans 20 ans, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être l'énergie, le moyen de production d'électricité la plus porteur. Hein. On sent que les énergies renouvelables ont beaucoup plus la cote. D'ailleurs, les États-Unis notamment investissent massivement, la Chine investit massivement, même si ces deux pays-là continuent d'avoir du nucléaire, ils investissent mais énormément plus dans le renouvelable. Donc il y a un souci là-dessus. On sent qu'EDF et Areva et le gouvernement sont passéistes sur ça, et que la révolution, elle n'est pas là-dedans. Et que les emplois du futur, ils sont pas là-dedans. Mais bon, bref, ils ont décidé de soutenir et de faire ça. Ce qui est très triste quand même de voir tout ça, c'est que ça va avoir un impact d'abord sur l'emploi. Sur l'emploi, pourquoi ? Parce que ils démantèlent pas Areva. Areva va continuer d'exister, mais ils vont licencier 3000 à 4000 personnes. Ça veut dire moins de gens pour travailler. Or, pour entretenir ne serait-ce que la Hague qui est une catastrophe, hein. Il y a les déchets à peu près de la dangerosité de 50 réacteurs nucléaires concentrés dans des piscines à La Hague, qui a aucune raison d'exister puisque ce retraitement n'est pas un retraitement. On sépare juste les déchets et on en crée donc en proportion beaucoup plus. Hein, et on ne sait pas quoi en faire après. Si on enlève des personnes pour gérer ces trucs qui sont ultra dangereux, eh ben la question de la sécurité va se poser. Donc il y a un vrai problème dans tout ça. Alors bien sûr, on pourrait rêver que l'État prenne conscience que c'est une technologie du passé, mais qu'il faut arriver à en sortir. Et pour en sortir, il faut énormément de monde pour gérer ces déchets, pour lancer le démantèlement, pour gérer les déchets issus du démantèlement, pour gérer la reconversion des sites industriels issus du nucléaire, et pour gérer la reconversion des travailleurs du nucléaire dans les secteurs de l'énergie renouvelable. On rappelle que les secteurs d'énergie renouvelable, pour un kilowatt produit, ont besoin de 2 à 3 fois plus de travailleurs. Donc en plus, ça créerait énormément d'emplois. Donc on aurait pu rêver ça, et vraisemblablement, c'est pas ça qui est prévu. Ce qui est prévu, c'est de relancer l'énergie nucléaire en France, parce que une fois qu'on a créé ce consortium EDF Areva, ça va être ultra difficile, tant qu'EDF Areva, le groupe, sera pas privatisé, de sortir du nucléaire, puisque cette entreprise d'État qui fabrique essentiellement son énergie électrique avec du nucléaire, elle va pas arrêter le nucléaire tant qu'elle est aux mains de l'État, et ça emprisonne du coup la France, l'État et EDF dans le nucléaire, et ça l'empêche de sortir, même si c'est à petits pas, du nucléaire, puisqu'il n'y a pas de volonté industrielle. Il y a une volonté de la population, on le sait, mais pas industrielle, de sortir du nucléaire. Donc voilà, c'est une triste nouvelle officialisée ce matin par ces ministres, ces politiques de droite, d'extrême droite, de gauche, qui marchent main dans la main dans le secteur nucléaire.
Alors on va repartir au pays de Barak, et nous allons parler de résistance de la part de militants écolos. Alors moi je suis toujours très impressionné par les risques que peuvent prendre les militants écolos, quelles que soient les organisations. Je trouve qu'ils font toujours des trucs assez incroyables. Et là, ce sont des militants et militantes de Greenpeace aux États-Unis d'Amérique, sous un pont, le pont St. John's à Portland dans l'Oregon. Et ben 13 militants et militantes se sont accrochés, suspendus. C'est très impressionnant. Quand on voit les images, ils sont au bout d'une corde. Ils ont une espèce de petit hamac, un truc tout petit, et ils sont posés dessus, comme ça, dans le vide, avec le vent. Alors, ils font pas ça juste hein, pour se marrer, pas pour prendre le frais. Non, non. Ils font tout ça pour bloquer le passage d'un brise-glace, le Fenica, qui doit participer à des forages pétroliers en Alaska pour la compagnie pétrolière Shell. Et oui. Alors, avec ces hamacs suspendus, qui donc vont gêner normalement la progression du brise-glace, il y a aussi des dizaines de kayaks qui sont rassemblés sous le pont pour bloquer aussi le brise-glace. Alors, la dernière fois que j'ai regardé le site de Greenpeace américain, cet après-midi, c'était toujours accroché. Hein. Je ne sais pas où il en est là ce soir. Peut-être qu'ils ont été et qu'elles ont été délogées. Alors, le Finica, c'est un gros brise-glace finlandais. Et là, il fait une petite escale à Portland. Pourquoi ? Bah, parce qu'il a eu un dommage à sa coque. Il a été un peu abîmé. Mais tout va bien, paraît-il. Il va pouvoir partir quand même en Alaska. Il n'y a pas de souci. Hein. Shell relance très fièrement ses forages pétroliers. Hein. Ils en sont très très fiers. Il suffit de regarder un petit peu leur propagande. Alors, parallèlement à cette action, il y a des militants qui sont rendus à la mairie de Portland pour demander le soutien du maire dans cette lutte contre Shell. Alors, il faut savoir que dans l'Oregon, il y a un militantisme écolo qui est très important. C'est le premier État aux États-Unis. Vraiment, il y a une mobilisation très active. Les gens sont très soudés. Donc, c'est les actions qui portent et qui sont en général bien relayées. Donc, il y a du monde hein, sur place. Quand on regarde un petit peu les vidéos et les photos, on voit qu'il y a vraiment quand même pas mal de monde. Il y a quelques semaines, c'était mi-juin, c'est d'autres militants et militantes qui, en kayak, avaient tenté de bloquer une plateforme pétrolière à Seattle pour empêcher donc le Shell de mener à bien ses explorations pétrolières dans l'Arctique. Toutes ces manifestations, elles font suite à l'autorisation donnée à Shell par Monsieur Barack Obama en mai dernier d'aller forer. Et oui, l'Arctique. Donc bah oui, les militants s'y opposent, les militants prennent des risques de fou à accrocher à une corde dans le vide. Je sais pas combien mesure la corde en fait, mais c'est assez impressionnant. Et par rapport à ça, moi j'ai une petite annonce aussi écho, c'est que Shell fait des belles annonces pour dire que c'est reparti, on va aller forer. Mais en même temps, aujourd'hui, on a appris que Royal Dutch Shell va supprimer 6500 postes cette année. Le groupe emploie 100 000 personnes, quand même.
C'est beaucoup.
Ouais. Ouais, c'est beaucoup. Donc, c'est quand même un géant. On comprend quelle puissance ça peut avoir face à un Barack Obama. On comprend bien. Reste que Monsieur Obama a lâché complètement sur cette question. Et on n'en attendait peut-être pas bien plus, mais quand même, il y a eu quelques déceptions aux États-Unis d'Amérique au niveau des militants écolos. Ben, voilà la réaction, voilà la réponse. Moi, je trouve ça extrêmement courageux. Je sais pas ce que t'en penses.
Et on va terminer.
Ouais, alors pour cette dernière émission, je voulais quand même dire un petit mot, puisque le 23 juillet dernier, le tribunal de commerce de Paris a pris la décision de placer Tétu en liquidation judiciaire.
Donc Tétu, cette revue gay,
ouais.
Qui existe depuis longtemps.
Ouais, qui avait été rachetée en 2013 pour 1 euro symbolique à Pierre Berger. Il y avait eu des réductions sévères au niveau des finances, mais ça n'a pas suffi. Et donc, ben, le Tétu, comme on l'a connu, ben c'est fini, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient préparé un numéro de septembre, ils l'avaient apparemment, il y avait la couverture qui était préparée, les sujets étaient entamés, mais ils n'ont pas eu de financement publicitaire pour sortir ce numéro, donc ben c'est la fin. Il n'y a pas de repreneurs qui se sont avancés. Donc voilà, il n'y a pas d'autre choix que de prononcer cette liquidation pour Tétu. Alors il est possible qu'il y ait un autre Tétu, allez savoir lequel, c'est puisque Tétu va être mis aux enchères. Oui, donc il pourrait y avoir un machin Tétu, demain il pourrait y avoir un site Tétu, mais ça sera plus la même chose. C'est fini, hein, le Tétu. Alors on a reproché plein de choses, hein, au Tétu d'aujourd'hui, d'être à peu près aussi mauvais qu'un magazine féminin comme Femme Actuelle, avec des articles davantage sur les cosmétiques et les fringues à la mode, que sur des articles de fond, quel que soit le contenu. On leur demandait pas forcément d'être militants à chaque article, à chaque page, à chaque paragraphe.
Ils l'ont été peut-être à un moment quand même.
Mais bien sûr, c'est toute l'histoire de Tétu, c'est toute sa création. C'est bien pour ça que bah, ça fait de la peine à beaucoup de gens, parce que ça a été bah, ça a été une nouveauté, ça a été une révolution dans la presse. Voilà, faut se souvenir de ces unes de Tétu, hein, chez les buralistes, avec des hommes pas bien habillés et avec de la musculation dessus.
Ouais,
le problème,
c'était quand même cheap.
Ouais, mais c'était aussi montrer l'homme, le corps de l'homme et un autre corps. Ça allait, je vois pas. On voit des corps de femmes tout le temps. Il y a pas autant de réflexion. Oui. Donc pourquoi pas. Et puis, la notion du corps, c'était aussi quelque chose peut-être à libérer. Et Tétu y a aussi participé, il me semble. On a pu aussi reprocher à Tétu de pas avoir su saisir la révolution Internet. C'est certainement aussi un peu vrai. Reste que y a aussi des critiques qui sont faites sur le peu de capacité financière au niveau publicitaire de la presse gay, lesbienne en général. C'est-à-dire que d'une manière assez paradoxale, dans les années 90, où on disait à la communauté gay, c'est celle qui a de l'argent, parfois avec la caricature, hein, quand même.
Oui, mais
il n'y a jamais eu vraiment de grands marchés publicitaires sur ces questions-là.
Alors après, peut-être qu'il n'y a pas d'existence possible économique, parce que c'est un truc capitaliste, hein. Il faut de la pub pour un journal spécifique sur une orientation sexuelle. C'est peut-être ça c'est ce qu'ils sont pas arrivés à faire, c'est à créer.
Ouais, mais très sincèrement, on voit quand même beaucoup d'autres sujets dans la presse que mais franchement, il faut regarder un petit peu, par exemple sur les sites de téléchargement, tout ce qui est plus illégal. Vous allez regarder les couvertures de ce qui est vous proposé. On vous propose des magazines avec sur de la musculation, sur
oui, on se demande comment ça peut marcher ces magazines.
Sur après de la moto, mais des petites choses qui sont tellement de niche que c'est pareil, et pourtant ça marche, pourtant il y a de la publicité. Des titres sur la musculation, il y en a, mais vraiment beaucoup, beaucoup.
Mais il y a peut-être plein de gens qui font de la musculation.
Ouais, sais rien, ou des gens qui aiment regarder les hommes musclés, je ne sais pas. Je me suis posé la question, en fait.
Non, mais...
Donc voilà, il y a en France quelque chose qui n'a pas fonctionné, en tout cas au niveau économique. Bon, ça reste quand même, malgré même si le têtu était devenu pas très bon, ça c'est mon avis, ça reste quand même une perte. Oui. Parce que pour l'instant, le marché de la presse, il est pas très bon. Il y a plus grand chose pour parler des gays, des trans,
des lesbiennes.
Il y a des
revues militantes, j'imagine.
Oui, mais ça reste pas du grand public. Oui. Et c'était aussi ça la force de têtu, c'est que ça pouvait être un journal acheté n'importe où par n'importe qui.
Et tu sais si dans, parce que là en France, bon, effectivement, ça n'a pas marché économiquement, est-ce qu'il y a d'autres pays où ils ont des journaux comme ça, grand public pour la communauté gay? Alors aux États-Unis d'Amérique peut-être?
Ouais, il y a effectivement d'autres marchés, c'est un projet de d'émission qu'on va vous faire à la rentrée, justement, on aimerait revenir avec d'autres camarades de la radio sur cette presse spécifique. Je pense qu'on va beaucoup parler un peu au passé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont un peu mortes. Mais il y a toujours effectivement aussi des petites choses qui sont pas connues, parce qu'elles ont pas de publication grand public, parce qu'aussi elles sont pas dans les marchés de la distribution classique de la presse. Donc oui, il y a des pays qui s'en sortent. Malgré tout, on aurait aimé que ça se passe aussi ici. Voilà.
Bon.
Donc Têtu repose en paix. Hein. On espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui va utiliser ce nom pour en faire un truc, une pompe à fric. C'est un peu la peur de, je pense, de beaucoup de gens quand même, c'est que le nom soit réutilisé. Que les gens aillent inventer ce qu'ils veulent, prendre un autre nom, mais arrêtent de vouloir utiliser ce qui a été fait. Et voilà.
C'est 20h17 à la pendule de la plus rebelle des radios. Il est temps de rendre l'antenne. On va vous laisser avec les bandes continues qui tournent beaucoup dans ce mois d'été où les gens vadrouillent un petit peu partout. Nous faisons une pause aussi.
On va aérer notre cerveau. Nous reviendrons
De se reposer. Parce que c'est un peu fatigant toutes les semaines de préparer pendant des heures ce Canu.
On vous rappelle que c'était la première fois que vous nous écoutiez ici à Radio Canu. Nous sommes tous et toutes bénévoles, donc nous avons tous des activités ailleurs, quelles qu'elles soient professionnelles, associatives, militantes, des vies personnelles, et voilà, construire des émissions semaine après semaine, c'est un engagement parfois un peu épuisant, mais on est toujours très très heureux, en tout cas moi je suis toujours très heureuse d'être ici dans ces studios de Radio Canu, on est toujours aussi très heureux d'avoir parfois de vos nouvelles un petit peu par mail, ça fait plaisir, on sait que vous nous écoutez, c'est sympa, ça nous booste pour revenir encore plus en forme fin août. On s'engage. Allez, c'est fait.
Fin août.
On vous souhaite un bel été, une bonne soirée.
Bonne soirée.
À bientôt, ciao.